ce show dédié pour le Zivoug, donc pour que Rachel Bat-Esther et Sarah Bat-Esther, les deux, rencontrent très prochainement leur futur conjoint qui se marie rapidement et crée des maisons exemplaires en Israël. Amen.
Amen.
À question de Rouven.
Ah, c'est quoi exactement la sagesse?
Qu'est-ce qu'au juste la sagesse? Très bonne question. On va essayer un peu d'analyser cela. En hébreu, il faut savoir que dans le domaine spirituel, le français est très pauvre. Dans le domaine spirituel, l'hébreu est très riche. Par exemple, tu as 10 mots différents pour dire prière. En français, tu en as peut-être 2-3 prières, supplications, demandes, pas plus. Tu as 7 mots en hébreu pour dire joie, des joies différentes. Sason, Simcha, Ditsa, Altson, Hadva. Dans le domaine de la sagesse aussi, il y a trois termes principaux qui, à prime abord, sont des synonymes. En fait, ils ne sont pas du tout des synonymes. C'est Chochma, Bina et Da'at. Chochma, c'est le nombre d'informations que tu as. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses, il a de la Chochma.
Connaissance.
Non, mais je préfère date connaissance. Ça, c'est l'information. J'explique après c'est quoi connaissance dans le vrai sens étymologique, même en français. D'accord ? L'intelligence, on va dire, culture générale. Donc la chorma, voilà, pour parler en hébreu, c'est la chorma, c'est le nombre d'informations que tu as. Plus tu connais des choses, plus tu es chacham. Bina, c'est les choses, l'information que tu obtiens par toi-même, à partir des informations que tu as connues. On s'appelle en français un syllogisme. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu, enfin en français, je prends la bonne traduction, ça c'est l'intelligence qui vient de l'intellect. Ça c'est la faculté à partir de données à créer d'autres données. L'intelligent, il a les données qu'il a reçues. Le chacham, il n'y a pas plus. La Gemara, je crois quand même que Chazal, tout dans le Midrash, ils disent c'est comme si tu as quelqu'un qui est un banquier, d'accord, alors lui il a ses pièces et il ne fait rien avec. Alors ce qu'il a, il a. L'autre, celui qui est de la Bina, il fait du business avec et il fait fructifier. Alors comment on fait fructifier? Avec des raisonnements de logique intellectuelle. Un des raisonnements les plus utilisés, c'est le syllogisme. Si A est égal à B et B est égal à C, alors forcément, A est égal à C. Tu as reçu les deux premières pierres, je mets A est égal à B, B est égal à C. Un type qui n'est qu'intelligent, mais qui n'a pas de bina, il ne sait rien faire avec. Et quelqu'un qui a de la bina, il va, hop, rajouter la troisième pierre qu'il a découverte par lui-même. D'accord? Alors on dit, je ne sais pas ce que ça vaut exactement, mais la lettre bête correspond à la bina. Et si tu... je te fais un dessin rapidement. Je mets une brique. Je mets une deuxième brique à côté. Et je mets une troisième brique dessus. Vous voyez les trois briques? Alors, quand j'ai fait la troisième brique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, en fait... la lettre bête. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport qui est vrai, j'ai vu ça une fois, ça se peut que c'est vrai. En tout cas, la bina vient du mot ben. Ben signifie entre. C'est aller entre, tu prends entre les deux, et tac, tu trouves une troisième chose qui sort d'entre les deux.
Ça a
à voir, parce que le ben, il vient d'entre le père et la mère. Chaque fois qu'il y a une production d'une troisième chose, on utilise pour cela la bina, et c'est une chose qui est intérieure. On dit que les femmes ont plus de bina que les hommes. Ils ont intuition, elles voient des choses que l'on ne voit pas. L'homme, il est plus chacham, il a des informations des fois, mais il ne sait rien faire avec. Il est bête, d'accord. La femme, avec peu d'informations, elle sait voir tout de suite. Elle sent des choses que l'homme ne voit pas. Maintenant, il y a un troisième niveau qui s'appelle le da'at. Et la vraie sagesse, quand on parle des sages d'Israël, c'est surtout ça. Alors, le da'at, je traduirai en français connaissance. C'est quoi connaissance? La différence entre intelligence et connaissance et intellect. Hein? Pas du tout. Ça, c'est le niveau intelligence. C'est-à-dire pour avoir une culture générale, il faut une grande mémoire, d'accord. Alors, réflexion, ça c'est ce qui amène l'intellect, c'est le deuxième. La connaissance, c'est comme le mot français. Con, ça vient du latin cum, qui signifie avec, naissance. Tu nais avec. Qu'on a le suffixe, le préfixe con en hébreu, comment on dit, donne-moi des mots qui commencent par. Je ne vais pas dire con, parce que je ne vois pas que je parle de façon mal.
Comme en français, ça veut dire avec aussi.
Avec, exactement. Alors, donne-moi un exemple.
En français.
Contingence. Connexion. Connexion. Connexion avec, d'accord. Comprendre, prendre avec, très bien.
Connaître.
Connaître, c'est connaissance. C'est quoi connaître? C'est je nais avec. Ça veut dire je vais assimiler, je prends une chose qui rentre en moi, fait partie de moi et me fait vivre. Ça devient une partie intégrante, ça me fait naître. Ça, c'est ce qu'on appelle le dat. Dat, Chazal dit aussi, dat c'est chibour, c'est l'union. Je prends la chose, elle s'unit à moi, elle fait partie de moi, on ne fait plus que un. C'est-à-dire que c'est assimilé complètement au niveau du vécu. Dat, dans la Torah, on voit que par exemple, c'est marqué que Adam a su Chava, Vayeda Adam et Chava, et Caïn est né. C'est quoi qu'il a su? Il s'est uni avec elle. Dat égale connaissance égale union, même qu'on parle d'une union charnelle, d'accord? On utilise le même terme. Pratiquement, ça veut dire quoi? On dit dans la prière, mais à data ayom, tu sauras aujourd'hui, c'est le mot date, qui a chez moi Elohim, mais à data ayom, chez vota elevavecha, que tu amèneras cela à ton cœur, que l'Éternel est tout-puissant sur terre et dans le ciel, partout. Alors on voit qu'il y a une étape d'abord de tête, et après on fait venir au cœur. Venir au cœur, ça s'appelle le date. Quelqu'un, il sait, qu'est-ce que j'en sais moi, il sait qu'il ne faut pas s'énerver. D'accord? Bon. Mais quand vient l'épreuve, le date, c'est très typique chez les enfants. Un enfant, j'ai une fois un élève, une fois il était assez jeune, c'est des bêtises, très 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 enfant encore. Je lui parlais, il pleurait de regret. Mais vraiment, un bon garçon, il pleurait, il regrettait beaucoup. Une demi-heure après, c'est la même chose. Ça s'appelle un manque de date. Ça veut dire, l'information, il a, au niveau du vécu, rien du tout. Et c'est ça le travail de notre vie. Toute notre vie, c'est arrivé, bien, datayam, tu sauras, tu vas revenir à ton cœur que Dieu est le Tout-Puissant. Ça veut dire assimiler les choses, tout ce qu'on apprend en Torah, c'est au niveau du vécu. Parce que si tu connais les lois de la Shonara, tu sais qu'il ne faut pas mentir, tu sais qu'il ne faut pas se mettre en colère, tu sais qu'il faut faire Shabbat, tu sais qu'il faut faire sa prière avec. Mais rien qui se passe. Alors, ben, tu sais tout. Alors, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est le vivre. D'accord? C'est marqué Rahmana Libabae. Dieu veut le cœur. C'est-à-dire arriver à. Ce que tu as appris, le faire descendre, qu'il y ait une union entre le message rationnel et le vécu. Ça, c'est une connaissance. C'est, je vais prendre cette information et naître avec. Elle fait partie intégrante de moi-même. Ça, c'est la vraie sagesse. Et celui qui a cela, il a tout gagné. Évidemment, tu peux avoir un peu de date. Quelqu'un qui a peu d'intelligence et qui a beaucoup de date, c'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la chose... L'information qu'il va assimiler, elle est petite. Quelqu'un qui a beaucoup d'informations, quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, et il va assimiler cela, et le vit. Et dans sa vie, il sait maintenant réfléchir d'après la Torah. On appelle cela « dat Torah ». Tu as la connaissance « dat » d'un crétin, putain, « dat Torah », d'accord? C'est quelqu'un qui vit d'après ce que dit la Torah. C'est un très haut niveau des grands sages d'Israël, où tout ce qu'ils disent, c'est Torah. Ça, ça.
Mais
que les, au niveau de ce n'est pas noir ou blanc. Ça va en grandissant. Plus tu reçois d'informations et plus tu les assimiles au niveau du date, plus tu grandis. Tu deviens quelqu'un de grand. On n'est grand dans la Torah que si on est grand en date. C'est tout. Il n'y a pas d'autre grandeur. Ça n'existe pas. Tout le reste, ça sert absolument. Et quelqu'un qui n'a pas de date, il n'a rien. Il n'a rien. Alors à quoi ça sert tout le Torah que tu l'enseignes si ça ne sert à rien, si c'est pas vécu? S'il a les capacités d'avoir du date, mais il n'a aucune information, il n'a pas de Torah, ça ne sert à rien non plus, parce qu'il pourrait avoir du date, mais comme s'il a une Jaguar, il ne fait rien, elle reste en garage toute la journée. S'il a une Jaguar, mais il n'a pas une carte où il faut aller, ça ne sert à rien non plus. Donc la carte, c'est l'information, la Jaguar, c'est la capacité à aller selon l'information. Voilà. Des questions sur le sujet, messieurs? Peut-être on va encore parler un peu de Moussard sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire nous maintenant pour agrandir nos dates? Alors, ce n'est pas l'information tellement. Il y a bien sûr apprendre la Torah. Mais rapidement, quelqu'un il sait déjà pas mal de choses en Torah. Ce qu'il faut maintenant, c'est assimiler et le vivre. Et ça, c'est le Moussard. Le Moussard, comme explique le Messat Yesharim, à mon avis, le must des livres de Moussard, c'est le Messat Yesharim de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Zatzal, qui est il y a 300 ans environ, grand sage d'Israël, qui a écrit des livres plutôt de Kabbalah. Mais il a écrit un livre, il paraît que c'est tout de la Kabbalah, mais c'est un livre, il n'y a pas un mot de Kabbalah, c'est tout caché, d'accord. C'est un livre de Moussard, c'est le top de ce que j'ai vu, d'accord. Qui te prend au début, comment travailler pour arriver à des niveaux, ça finit par voir Hakodesh, comment avoir l'Esprit Saint. Alors lui, là-bas, à l'introduction de son livre, il dit qu'il n'y aura pas d'utilité à lire son livre au niveau des informations nouvelles qu'on va recevoir. Parce que quelqu'un qui étudie un peu Torah, il dit presque tout ce que je veux dire, tu le sais déjà. Alors où est l'utilité de lire mon livre? Il dit de lire et relire et relire et relire pour justement que l'information qu'on a, que tout le monde a, elle rentre plus dans le cœur par le fait de relire des choses sur l'importance de ne pas mentir, sur l'importance de l'honnêteté, sur l'importance de ne pas regarder les filles dans la rue, sur l'importance de prier avec... Toutes ces choses-là, quand tu répètes ces choses-là, ça fait que l'information rentre au niveau du cœur, ça devient plus assimilé, ça devient une connaissance, d'accord? Ça, c'est tout le travail du Moussard. Un peu le Moussard, c'est donc pas des nouvelles choses. Les gens, pourquoi ils n'aiment pas le Moussard? Parce qu'ils connaissent. Il faut encore de nouveau lire qu'il faut parler à Shonara, de nouveau lire qu'il ne faut pas mentir, de nouveau lire qu'il faut prier avec Kavana. Je connais tout ça. On aime les choses qui excitent notre esprit, donc les choses qui sont nouvelles. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une question, pourquoi? Tic-tac. Mais le Moussard, ce n'est pas du tout ça. Le Moussard, c'est des notions qu'on connaît. Le travail, il est d'assimiler ça au niveau du vécu. Celui qui a gagné ça, il a tout gagné. Parce que, comme j'ai dit auparavant, Dieu veut le corps, on te regarde au niveau du corps. Qu'est-ce que tu es? Pas qu'est-ce que tu sais. À quoi ça sert si tu sais et tu ne vis pas d'après cela?
Ça force de dire, du coup.
Oui, mais pas qu'une lecture. Une lecture où le Rav Sam Salant, qui a donc mis au point tout le mouvement du Moussard à l'époque, il a dit lire et lire avec, en mélodie pour se convaincre. Quoi. C'est de l'autosuggestion très très puissante. Il faut vraiment, il faut pas lire. Lire en voulant que ça rentre dedans, qu'on soit absorbé de cela. Oui. Oui, voix haute, en chantant si possible, ouais, tous les moyens sont bons pour que ça rentre, et que ça rentre, bien attaché. Tu avais un sage d'Israël, il s'appelait Yerovam ben Navat. C'est un des trois que la Mishnah dans Sanhedrin dit qu'il n'a pas droit à Olam Haba, un des quatre qui n'a pas droit à Olam Haba. C'est écrit que tous les sages d'Israël, par rapport à lui, étaient comme la pelure de l'ail, valaient rien. Et avant qu'il tourne mal, c'est un grand sage d'Israël, il a rencontré le prophète de l'époque, c'est Arya Chiloné, et c'est marqué qu'ils se sont rencontrés dans les champs. La Gemara dit dans Sanhedrin, c'est quoi dans les champs? Qu'ils ont parlé de Torah, et que toute la Torah était claire à leurs yeux comme un champ qui est ouvert devant eux. Autre explication, qu'ils ont fait pousser des nouvelles notions de Torah par leur intellect, comme ça, comme un champ qui fait pousser des choses. Il était un type extrêmement haut. Il est devenu un des plus grands rachats du peuple d'Israël. Quand le Rambam il dit ceux qui n'ont pas parole à Maba, on parle entre autres de ceux qui font pécher le peuple d'Israël, comme Yerovam ben Navat. D'accord? Il avait des petits-fils comme Achav qui étaient pires que lui. Mais c'est écrit dans la Torah, dans la Bible, que Achav a fait les mêmes actions que Yoram ben Navat. Pour la question, non, il a fait bien pire. Non, mais Yoram ben Navat était pire que Aram, c'est lui le premier qui a commencé. C'est lui qui a mis en place comme ça qu'on pouvait se révolter contre Dieu très très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? À son époque, il y a eu le schisme. Shlomo est mort, et son fils Rechavam, il y a Yerovam et Rechavam, il ne faut pas confondre. Rechavam, c'est le fils de Shlomo, et devait être le roi d'Israël. Les juifs sont venus, lui ont dit « Sois plus clément avec nous que le Shlomo, je vous mets des impôts très très durs. » Rechavam, c'est allé voir les vieux, les sages, ils ont dit « Oui, ils ont raison, calmez comme ça. » Il a voir ses petits copains, les jeunes qui sortaient boire un pot, il a dit « Mais non, au contraire, si tu cèdes au peuple, t'es encore jeune, ils vont te bouffer. Ils sont encore plus durs que ton père. » Ils ont dit « Je vais être plus dur que mon père, comme ça il leur a dit. » Ils ont dit « C'est comme ça, bye bye, on part. » Et ils ont ouvert un royaume, et ils ont mis avec les 10 tribus, donc ici il est resté Juda Binyamin à la tête, Rechavam, le fils de Shlomo, c'était le royaume de Juda, comme on l'appelait, mais qui avait deux tribus, Juda Binyamin, où on est. Nous, on est dans Binyamin, d'accord. Où j'habite, c'est Yehuda. On est à la frontière entre les deux. Plus au nord, déjà, c'est les Malchoutes d'Israël, le royaume d'Israël. Et qui ils ont mis à la tête du royaume d'Israël, Yerovam ben Nabat, qui était ce grand sage d'Israël. Bon, là, jusqu'à là, tout va très bien. Où il a commencé à... La Gemara dit que bien qu'il avait une Torah extrêmement grande, elle était extérieure. C'était Misafa ve Lachutz, de l'air vers l'extérieur. Il parlait très bien, il connaissait beaucoup, mais dedans, c'était tout pourri. C'est ça que je voudrais vous expliquer. C'est qu'on peut avoir une grande connaissance, non pas, je ne parle pas de connaissance, on avait dit, une culture générale, connaît toute la Torah, mais dans le fond, t'es un nul. T'es un nul. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Viennent les fêtes. La Torah dit que les fêtes de pèlerinage, il faut aller au temple de Jérusalem, et là-bas, mais il y a des sacrifices à faire, etc. Lui a dit, si le peuple juif va au temple, là-bas, dans le temple, personne ne peut s'asseoir. Le seul qui peut s'asseoir, c'est le descendant du roi David. Donc David, Shlomo Rechavam, mon concurrent, le roi de Juda. Je vais aller là-bas. Si je m'assieds, on me lapide parce que je ne suis pas descendant de David. Si je reste debout, qu'est-ce qu'ils vont dire le peuple entier? Le vrai roi, c'est Rechavam. Yerovam, c'est rien, c'est un imposteur, je suis fichu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des flics sur toutes les routes qui menaient au temple, interdisant le passage. Il a pris deux veaux d'or, il a mis un à Bethel, un à Dan, il a fait deux temples, il a dit, venez Israël, voilà, maintenant vous avez des nouveaux endroits pour faire les pèlerinages au temple, il y a deux nouveaux temples avec des veaux d'or, allez-y. Et ainsi, il a fait pécher le peuple d'Israël. C'était impossible de monter à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage. Impossible. C'est la Gemara raconte que Dieu est venu, lui a dit, fais tchouva, et moi, et toi, et le fils de Ishaï, donc le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. Tu te promènes avec Hachem et le roi David. Non, mais c'est le bonheur le plus grand qu'on puisse vouloir. Et il a posé la question, et qui est en premier? Le fils de Ishaï, David, ou moi? Dieu l'a dit, il se pose la question, c'est lui. Moi, je t'ai dit, moi, Dieu, toi et lui. Donc, tu étais avant lui. Il lui pose la question, déjà, il a inversé. Il dit, c'est comme ça, je ne veux pas. Il était orgueilleux. Ah, il connaissait toute la Torah. Et tous les sages d'Israël sont par rapport à lui comme de la pelure de choum, d'ail. Rien du tout. Mais mon cher ami, c'était une Torah qui était extérieure. C'est ça le danger. Il faut que ça reste intérieur. Quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah et qui n'a pas changé l'intérieur, il devient un type dangereux. Il y a des gens, ça arrive, des gens qui sont soi-disant des rabbins, des grandes barbes, des grands chapeaux, des fois des grandes institutions, et c'est des pourraches. Pourraches de pourraches. On leur fait guili, guili, guili. En Amérique, je ne peux pas dire où, il y avait, une histoire, il y avait deux organismes, d'accord. Je crois que c'est comme de Tchouva, les deux. Puis ils habitaient dans la même rue, l'un en face de l'autre. Et puis ils étaient concurrents. Mais ils se sont fait une guerre. C'est terrible. Quelqu'un extérieur à ça, il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Vous travaillez pour le même but. Vous travaillez pour qui? Pour le bon Dieu ou pour vous-même? C'est un exemple que je ramène souvent, mais je le rappelle parce que ça m'a beaucoup choqué dans ma jeunesse. J'avais 30 ans à l'époque. À 30 ans, il y a eu la guerre du Golfe ici en Israël. Il y a 39 scuds de 350 kg d'explosifs qui sont tombés de la région de Tel Aviv. Chaque scud tombait sur un bâtiment. Le bâtiment entier, peut-être même 2-3 à côté, s'effondrait. D'accord? C'est un pouvoir de destruction énorme. Il y a un bâtiment qui s'effondrait avec des gens qui étaient dans les décombres, pris dans les décombres. Vient une équipe de sauvetage. Ils commencent à faire le tracteur comme ça, enlever les pierres. Vient une autre équipe. Et oh, c'est notre boulot, nous, c'est notre région à nous. Non, mais on est venu vous aider. Non, non, c'est la nôtre. Ils se commençaient à se battre. Et ce sont sur les décombres, des coups de poing, casser des dents, saigner, alors que les gens sont dans les décombres en bas. Qu'est-ce que tu trouves ça? Non, mais c'est. Je comprends. Les gens sont dans les décombres en bas. Tu penses maintenant à faire la bagarre. Qui va sauver?
Mais ça arrête de bien se marrer.
Mais c'est terrible! Et eh bien, ça arrive aussi avec des grandes barbes. Et là, ça arrive, je dois le dire, d'accord? Ça, c'est des gens que c'est extérieur. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur cavode. Moi, 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 moi. Et puis, le bon Dieu, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ça provient d'un beaucoup de Torah sans que c'était rentré dans l'intérieur. Ils font un travail de moussard quotidien, changer l'intérieur. Voilà, que Dieu nous aide dans ce sens-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.